Okay. Ouais, c'est quand même. Faut sortir un peu de l'univers. Je vous le redis, ouais, merci infiniment pour votre travail, vraiment, parce qu'il est, il est très fort, il est inédit surtout. Et c'est, je le rappelle, le premier documentaire sur ce sujet à ce jour. Donc c'est vraiment un travail de mémoire qui débute, en tout cas de ce côté-là de l'Atlantique, puisque, bah, comme on le voit dans le film, du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, il a déjà été un peu plus engagé, même s'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et voilà, et on espère que du côté de notre côté, en tout cas, il continuera à être creusé parce que c'est vraiment nécessaire. Avant de parler un petit peu plus de ce sujet, je voulais quand même vous présenter donc Alexis. Et c'est vrai qu'en regardant une deuxième fois le documentaire, ce qui m'a vachement troublée, c'est de revoir le nom de ton grand-père, qui est ton nom aujourd'hui. Oui.
Celui de mon père également.
Waouh, ouais. Wow, ok. Donc c'est, ouais, c'est assez ouais. Impressionnant aussi. Donc toi, tu es écrivain, tu es professeur de philosophie et tu es aussi naturaliste. Tu as vécu un temps à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit, tu retrouves des gens que tu connaissais quand tu es retourné sur le tournage. Et quand tu étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, tu étais directeur du Franco Forum. Donc c'était un espace, un institut de langue française, plutôt pour les personnes qui venaient du Canada et des États-Unis, donc pour venir apprendre le français sur l'île. Tu es aussi un voyageur passionné par la nature. Et tu as écrit, à partir de ces voyages, en tout cas, tu as écrit vraiment de nombreux récits. Et notamment cet après-midi, je ne sais pas si certaines d'entre vous étaient là pour les lectures de textes que tu as écrits justement sur la région.
Oui, ben sur la région, ça s'appelle l'écrit de nature Atlantique Nord, et c'est sur Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve et le Labrador, donc toute cette zone-là subarctique,
sur la faune et
qui
la
est
flore.
Absolument extraordinaire. Mmh. Ouais.
Et tu travailles actuellement donc sur une nouvelle publication donc en lien avec cette enquête que tu as faite qui paraîtra, on l'espère, au printemps,
oui.
Qui permettra d'aller encore plus loin sur ce sujet-là. Ça va, c'est à peu près.
Oui, juste.
Et Laurent, donc toi, tu es réalisateur, on entend ta voix dans ce documentaire, tu es aussi la voix off de ce documentaire. Donc tu disais que dans les années 90, tu as fait ton premier voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, effectivement. En 90, j'avais fait un petit CDD à la télé de là-bas, la télé qui s'appelait RFO à l'époque. Et j'ignorais que j'y reviendrais 30 ans après.
Oui, c'est ça. Tu es revenu de nombreuses fois pour travailler et puis notamment pour faire une série documentaire sur le fait de vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Qui s'appelle Vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, tout simplement. Et là, tu reviens tout juste. D'ailleurs, c'était marrant pour préparer cette rencontre. On a un petit peu bataillé pour se parler parce que tu étais embarqué à bord du Neo Liner Origin, donc qui est le premier cargo à voile qui a fait la liaison en fait jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a continué ensuite sa route jusqu'à
sur Baltimore. En fait, c'est ce cargo à voile qui est nouveau dans l'esprit de la décarbonation du transport maritime et qui est aussi tout nouveau, vient d'ouvrir une ligne vers l'Amérique du Nord à partir de Saint-Nazaire et la première escale c'est Saint-Pierre-et-Miquelon et il n'y a pas eu de ligne directe entre la métropole et Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la fin des années 60, donc là-bas c'était un événement, donc ce sera l'objet de notre futur documentaire, cette première traversée et comment c'est ressenti là-bas.
Et d'ailleurs tu m'as dit que tu avais diffusé pendant la traversée ce documentaire sur le bateau pour l'équipage.
Oui, ça fait partie des moments. Bon, là, on l'a pas mal montré, ce film. Il a été diffusé à la télé, il a été rediffusé encore cette semaine, avant-hier, sur France 3 Bretagne. Et on l'a montré dans pas mal d'endroits, dans des festivals, comme Étonnant Voyageur, comme Nature Nomade. Ça me permet de remercier Faustine, Benoît et toute l'équipe, toute la team de bénévoles, parce que avant d'être sur la scène, j'ai d'abord été spectateur comme vous dès les premières éditions, mais fidèle de la Géothèque. Donc merci à toute l'équipe de ce chouette festival qui nous permet. Donc, et donc on l'a montré dans plusieurs endroits, notamment le premier endroit où on l'a montré, c'est à Saint-Pierre, on y tenait, parce que même si l'histoire est connue là-bas, En fait, les Saint-Pierre et les Miquelonnais ont découvert un peu dans le détail ce qui se passait. Ils ont été souvent bouleversés par les détails qu'ils apprenaient. Certains, de découvrir de fil en aiguille qu'ils étaient potentiellement descendants de petits graviers, et d'autres, descendants d'armateurs, ont découvert que leur famille, dans la légende familiale, disait qu'ils avaient transporté beaucoup de marchandises, quelques pêcheurs, mais en fait, ont découvert aussi, un peu bouleversé, qu'ils étaient peut-être descendants de trafiquants d'enfants, quoi. Donc ça a été assez fort là-bas pour la première projection. Ils ont eu l'idée, certains Saint-Pierrais ont eu l'idée à ce moment-là de faire une autre projection qui s'est déroulée l'été dernier sur les lieux mêmes du travail des enfants, sur l'île aux marins. Hein, donc un soir de la mi-août, les 150 Saint-Pierrais qui se sont retrouvés, qui sont venus en bateau, qui sont venus avec le petit gravier qu'on voit à l'écran, qui sont venus avec leur propre bateau, et qui, bien emmitouflés le soir, assis sur les galets qu'on voit sur les rochers des graves, ont vu une nouvelle fois, pour la plupart d'entre eux, ce film, dont les deux fils d'Alexis, qui étaient là-bas, avec Marie-Gabrielle aussi. Donc on sait que c'était un moment particulièrement fort. Et effectivement, à bord du Neoliner, pour beaucoup, certains des passagers de l'équipage qui ne connaissaient pas encore Saint-Pierre-et-Miquelon, on l'a montré à bord. Je l'ai tellement montré à bord que j'ai oublié mon ordinateur à bord, d'ailleurs, depuis. Il n'est toujours pas rentré. Mais donc, c'était une manière de présenter Saint-Pierre-et-Miquelon. C'était aussi une manière pour l'équipage qui a vécu quelques péripéties à bord de ce bateau. Hein, il y a eu des aventures dont je ne vous parle pas pour l'instant. Elles seront dans le futur documentaire qui sera diffusé en mars. Mais en tout cas, notamment le capitaine du bateau, après avoir vu le documentaire des petits graviers, a conclu en disant que bon, tout ce qu'on vit aujourd'hui, finalement, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ont vécu ces enfants qui traversaient, qui prenaient les mêmes routes maritimes, mais pour bien d'autres projets.
Et ce qu'on voit dans le film et ce qui est réel, c'est qu'il existe très très peu d'archives disponibles. Effectivement, il y a eu cet incendie aussi qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont aussi disparu. Et donc, Laurent, pour la réalisation de ce film, tu as eu recours en fait à cette belle idée du dessin en fait. Et donc, c'est Christophe Chabouté qui a réalisé en fait toute l'animation. Et voilà, et du coup, ça permet de rendre aussi une dimension assez sensible de ce sujet, et puis peut-être par le biais du dessin aussi de rendre les choses un peu plus, de mettre un tout petit peut-être un peu plus à distance, je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça, c'était une belle idée qui venait pallier justement un manque. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux sur ce sujet-là? Comment vous êtes amenés à travailler ensemble?
Tout ça, c'est un peu de la faute d'Alexis, beaucoup de la faute de ma femme aussi, qui a lu un article d'Alexis dans Armen. Donc, ça faisait déjà pas mal de documentaires que je faisais sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Je parlais beaucoup de Saint-Pierre-et-Miquelon à la maison. Et donc, elle m'a dit, ce sujet-là, il faut que tu creuses. Et comme l'article d'Alexis commençait dans la revue Armen, donc qui date de plusieurs années maintenant, cet article
2018, ouais.
Commençait par la phrase « Mon grand-père était petit gravier », ça donnait déjà une petite idée de ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. On s'est rencontrés à ce moment-là et tout de suite.
Oui, donc tu es venu me voir à Saint-Nazaire et j'ai su tout de suite qu'il fallait le faire, quoi. Et donc, et pour moi, ça a été une expérience incroyable. Ça a duré le 3 mois, enfin, pas en permanence, mais par épisode, entre février, début février, fin avril 2024. Et pour moi, ça a été une expérience incroyable qui m'a permis, ça nous a permis d'ailleurs, tu connaissais déjà bien le sujet, mais de le creuser énormément. Et moi, j'ai pu ensuite, parce que j'ai continué à travailler pour le livre que je prépare, et j'ai continué donc à travailler sur les archives à Brest et à Saint-Pierre-et-Miquelon ensuite, puisque je suis resté plus longtemps que toi, je suis resté avec mon fils quelques temps après. Et donc, et en fait, la différence entre ce que je prépare en tant que livre et le film, d'abord, bon, ce que je voudrais arriver à faire, c'est quelque chose d'aussi intense, d'aussi vibrant que ton film, et aussi réussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la qualité du montage du film. C'est extraordinaire, parce que c'était, je crois, à peu près 22 heures de rush, enfin, ou quelque chose comme ça. Et il fallait arriver à 52 minutes avec une vraie nervosité, et puis surtout dans l'ordre, quoi. Et puis dans un ordre qui est pertinent, quoi, sans répétition. Donc je voudrais arriver à des choses comme ça. Et si vous voulez, le fait de travailler davantage permet de creuser deux directions. La première, c'est la direction historique, puisque au fond, il y a des choses qui seront ajoutées à ce qui est dit dans le film par la force des choses, puisque c'est un sujet quasiment vierge, enfin très peu pratiqué. Donc j'ai découvert des choses que moi-même, qui moi-même m'ont étonné, que je ne soupçonnais même pas, et qui vont s'ajouter à tout ça. Et la deuxième chose est une dimension, paradoxalement, et ce sera d'ailleurs une autre difficulté du livre, de faire coïncider ou correspondre ou s'articuler les deux dimensions. L'autre dimension est une dimension de nature poétique. Je veux dire par là que qu'est-ce que la poésie ? Ça consiste quelquefois à se projeter dans un être qui n'est pas nous, se projeter dans ce que peut penser un poisson, un oiseau, une jeune fille, si on n'en est pas une, un écureuil, etc. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête des graviers, comment ils vivaient ça en tant qu'enfant. C'est une démarche poétique. Comment un enfant, alors, je suis loin d'être un enfant, comme vous le voyez, mais comment est-ce qu'un enfant peut vivre ce genre de choses, comment il peut le ressentir, comment il peut aussi être modifié et traumatisé et altéré par cela, pas seulement pendant l'expérience, mais après, quand il rentre dans la famille, dans la suite de sa vie.
Oui, et puis finalement, ce qui est intéressant dans ce que tu as envie de faire, c'est aussi de rapprocher avec ce qui existe aujourd'hui, la oui. situation du travail des enfants, qui absolument. Malheureusement perdure aussi dans le monde aujourd'hui. Et du coup, c'est comment donner un écho aussi.
Tout à fait. Parce que vous avez vu que, évidemment, l'histoire familiale n'est qu'un fil rouge et que le but du film, c'est pas de parler de ma famille, c'est de parler des graviers, de faire toute la lumière là-dessus. Mais en fait, on ne s'arrête pas, on ne veut pas s'arrêter là. Enfin, ce film a une grande modernité, même si les derniers graviers ont débarqué en 1930, ce qui n'est pas si vieux. Hein. Donc, ils n'étaient plus très nombreux, mais bon, la pêche avait changé d'allure, on était passé aux chalutiers, etc. Donc, on n'avait plus besoin de sécher le poisson à Saint-Pierre, il y en avait encore quelques-uns. Donc, parler des graviers, mais au-delà de ça, parler, et c'est là qu'est la modernité du film, du travail des enfants, en général. Savez-vous combien il y a d'enfants esclaves ? Et quand je prononce le mot esclave, je veux dire que ce ne sont pas des enfants qui sont qui travaillent dans un cadre familial, où ils peuvent être très maltraités, mais ces enfants-là ne sont pas comptabilisés. Je parle d'enfants comptabilisés, c'est-à-dire qui sont véritablement enlevés à leur famille, kidnappés, etc. Enfin bon, on peut énumérer toutes les sortes d'atrocités. Dans le monde, aujourd'hui, eh bien, ils sont 250 millions. Donc, c'est... Bon, on ne le sait pas. Donc, en fait, il faut... Bon, ce film est peut-être le début de quelque chose qui pourrait faire tache d'huile et, en tout cas, secouer l'indifférence.
Et puis, ça parle aussi de la colonisation et de comment, finalement, ces territoires-là ont eu besoin, en fait, d'avoir recours à tous les humains possibles, y compris les enfants, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir se développer.
Bien sûr.
D'autant plus que c'était des terres vierges. Hein. Saint-Pierre-et-Miquelon, contrairement à Terre-Neuve, contrairement à la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, etc., d'autres provinces, d'autres terres nord-américaines, n'étaient pas du tout. Il n'y avait pas de Première Nation hein, sur ces deux îles. Il y avait personne. Donc la colonisation s'est faite ex nihilo, quoi, et c'est répété à chaque fois qu'il y avait un nouvel occupant anglais qui avait tout détruit des Français et vice versa. Donc à chaque fois, ça s'est fait sur une terre complètement vierge. D'où l'importance de faire venir aussi de la main-d'œuvre de métropole.
Oui, et les enfants étaient évidemment moins payés que les adultes, dont ils prenaient le travail, mais pas de leur propre fait. C'était les armateurs qui calculaient tout cela, et qui avaient d'ailleurs très vite compris qu'un enfant de 15, 16 ans, 17 ans, travaillait mieux qu'un enfant de 8 ans. Et donc, ce n'est pas non plus par bonté d'âme qu'ils avaient un petit peu haussé la classe d'âge. D'une certaine façon, un enfant est aussi plus docile. Il va pas. Bon, on n'a pas entendu parler de syndicats, de graviers. Enfin, il y a eu des mouvements de révolte, il y a eu des déserteurs. Hein. Il y a eu des rébellions individuelles, mais elles étaient vite matées. Et donc, c'était une main-d'œuvre qui était tout bénéfice pour le grand capitalisme de la pêche de l'époque. Et donc, avec un cynisme incroyable, quoi.
On voit en fait, donc on en a parlé, à quel point la mémoire en fait diffère de part et d'autre de l'Atlantique sur ce sujet-là. Moi, ça m'interroge beaucoup justement sur pourquoi en fait, pourquoi c'est tombé totalement dans l'oubli en Bretagne, en Normandie. Quelles sont les raisons de cette différence selon vous ? Parce que finalement, l'histoire, elle fait mal des deux côtés. Parce que à Saint-Pierre-et-Miquelon, on se côtoie aujourd'hui des descendants, en fait, et d'armateurs et de petits graviers. Mais c'est quelque part la même histoire, en fait, en Bretagne. Et du coup, comment. Enfin, il y a ce maire-là qui découvre, qui découvre cette histoire aujourd'hui en 2025. Et ça nous paraît complètement.
Suite
fou,
à un coup de fil de Laurent.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que quand on dit que c'était méconnu en Bretagne, c'est clair que, à part dans la tête de quelques spécialistes qui avaient écrit quelques pages dans le cadre de gros bouquins sur les pêches à Terre-Neuve, c'est une histoire qui n'était vraiment pas connue, qui était connue à Saint-Pierre, mais pas à ce point. Ils ont vraiment découvert un peu les détails. Et ces détails, en fait, ils nous viennent aussi de pages méconnues, qui étaient méconnues même à Saint-Pierre. Ce témoignage de Charles Le Goffic, c'est une enquête qu'il a vraiment faite, lui, en 1903. C'était vraiment une vraie enquête journalistique d'aller recueillir des témoignages de petits graviers qui rentraient de ces campagnes. Et sans ça, on n'aurait pas autant de détails, en fait. Hein. D'autres détails sont à découvrir et sont encore à défricher, parce que les archives qu'on a effleurées, que tu as continué à explorer à Saint-Pierre-et-Miquelon, elles sont encore plus tout à fait vierges, puisqu'on a ouvert ces dossiers qui étaient seulement classés, mais maintenant, à chaque fois qu'on fait une intervention publique, qu'on fait appel à d'éventuels futurs historiens qui devraient s'emparer de ce sujet qui est vraiment vierge. Et il y a de la matière, on sait que la matière existe. Hein, donc elle existe dans des archives à Saint-Pierre, elle existe dans les services historiques de la Défense à Cherbourg, à Brest, et je ne sais où encore. Il faudrait s'emparer de ce sujet pour le découvrir.
Oui. Et alors, il faut voir aussi que, parce que la raison du silence, c'est un des vrais sujets que soulève ce film, et que je voudrais reprendre aussi à ma manière dans un livre. Eh bien, évidemment, du point de vue des armateurs, ça se comprend, ils ne vont pas claironner leur turpitude, etc. Enfin, bon, les pouvoirs publics qui ferment les yeux, surtout à 5000 kilomètres de leur quartier généraux. Bon, je veux dire, bon, là aussi, ça peut. Donc tout ça, il y a des complicités. Mais il faut voir que les victimes elles-mêmes n'en parlent pas. Quand les marins, parce qu'ils deviennent ensuite marins pour la plupart d'entre eux, eh bien, évoquent leurs années de jeunesse, alors, à partir du moment où ils sont mousses, même si c'est extrêmement dur, hein, la vie des mousses sur les bateaux, et marins Terre-Neuve, ce qui est également très dur, vous vous en doutez, eh bien, là, ça devient une épopée, ça devient héroïque. Il y a quelque chose qui voulait, à juste titre, hein, est de l'ordre vraiment du courage, la flamboyance, etc. Mais sur la campagne, parce qu'en général, il n'y en a qu'une, qu'ils ont passée comme gravier, ils en parlent d'une phrase, quoi. Et au sein des familles, on n'en parlait jamais. C'est pour ça que pour mon grand-père, on était parti de presque rien. Et donc, et je crois que c'était aussi, c'est dans certaines familles, on ne parle pas. Et comme l'a dit quelqu'un dans le film, on ne parlait pas de ses malheurs. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose dans la Bretagne profonde qui fait qu'on se tait au sein des familles quelquefois. Et puis, il y a le fait que, bizarrement, les victimes ressentent une forme de honte. Il y a le stress post-traumatique. hein, le refoulement donc. Mais il y a là une forme de honte qui consiste à ne pas avouer ce qu'on a souffert, et d'autant plus que les parents, bon, la misère est la grande coupable, mais c'est quand même les parents qui ont donné l'aval à ces embarquements-là qui débouchaient sur quelque chose que les enfants ne pouvaient absolument pas soupçonner, enfin, sur un enfer, quoi.
Et puis on entend aussi ce témoignage dans le film d'un descendant de Petit Gravier et de Capitaine de Goélette, le capitaine de la Perle, qui a lui-même été Petit Gravier, mais qui ne veut surtout pas dire au Petit Gravier qu'il va transporter ce qui les attend, quoi. Donc c'est vraiment, il y a un peu une omerta sur ce qui se passait.
Oui, ça résonne étrangement avec l'histoire de Nantes, même si ce n'est pas exactement sur le même sujet, mais il y a le parallèle quand même aussi avec la traite négrière dans le reportage. Pour autant, quand tu as présenté ton projet de documentaire à France 3 Bretagne, ils ont tout de suite dit oui.
Oui. Alors, je l'avais présenté d'abord à Saint-Pierre-et-Miquelon-la-Première, puis à France 3 Bretagne. À Saint-Pierre-et-Miquelon-la-Première, le directeur d'antenne m'a dit, quand je travaillais sur un autre documentaire, je lui ai dit j'aimerais bien faire quelque chose sur les petits graviers. Il m'a dit bah ouais, c'est bien beau, sur les petits graviers, bien sûr, si tu veux faire un sujet là-dessus, bien sûr que ça nous intéresse, ça nous concerne. Mais bon, il existe quoi sur le sujet, 3-4 photos? Donc c'est pas avec 3-4 photos qu'on fait un 52 minutes, hein, ça s'appelle un podcast, ce que tu veux faire, mais pas un 52 minutes. Je lui ai dit t'inquiète, on va réussir, et voilà, on va réussir aussi avec, avec les dessins, parce que c'est les dessins de Chabouté qui permettent de remplir les cases blanches des témoignages qu'on a par ailleurs de Charles Le Goffic, etc. Donc voilà, il y avait vraiment matière à raconter, à trouver le moyen de raconter l'histoire. Et France 3 Bretagne, ça, à l'époque, c'était un Breton qui était directeur d'antenne, et il avait tout simplement jamais entendu parler de cette histoire, alors que c'est l'émission Littoral, c'est des documentaires depuis des décennies qui passent sur France 3 Bretagne, et puis donc voilà. Donc tout de suite, dès qu'ils ont entendu parler de ça, ils se sont dit effectivement, ça les intéresse.
Et moi, je dois dire que la première fois qu'on en a parlé, quand on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, à Saint-Nazaire, eh bien, moi, je croyais, moi, je ne te l'ai pas dit, mais j'étais persuadé que ça n'aboutirait pas, qu'il refuserait. Parce que le sujet est trop sombre.
C'est maintenant que tu me le dis.
Breaking news.
Voilà, parce que le sujet est trop sombre. Je pensais que ça allait faire peur. Et au contraire, ils ont sauté dessus, tu vois, c'est pour un certain nombre de raisons qui expliquent aussi que vous soyez là aujourd'hui. Et parce que bon, c'est un sujet trop fort, parce que les gens doivent en avoir assez, enfin, moi le premier, de voir 50 fois la même chose, et qu'il est temps qu'on dise les choses, et la vérité, entre autres. La vérité, c'est très important.
J'ai encore une question, après on peut passer à la salle, mais peut-être vous l'avez aussi cette question-là, c'est... Il y a eu une très belle diffusion finalement là en juin. C'était en juin, c'est ça, je crois, quand il y a eu. Ça a été, oui, sur France 3. Et est-ce que vous avez eu des retours suite à ça, justement? Enfin, parce que là, c'est un appel du pied justement à ce que le travail continue. Mais est-ce que suite à ces diffusions, vous avez eu justement des contacts?
Oui. Alors, on a eu des retours et de nouveaux témoignages. On a même envisagé de faire une suite, mais là, du coup, France 3 Bretagne nous a dit non, tout est raconté dans le début, c'est bon, on va pas continuer, pas exagérer. Mais en revanche, on a eu des retours, effectivement, alors, et médiatiques, et aussi de nouveaux témoignages. Le retour médiatique, c'est qu'effectivement, c'était tellement méconnu qu'on a eu des 4-5 pages dans le Chasse-Marée, dans Breton, dans la nouvelle revue Histoire Braise, dans Ouest France aussi, en dernière page, toutes les éditions. La veille de la diffusion, ce qui a quand même contribué aussi à son audience. Mais depuis, surtout, on a eu, et notamment pendant des séances comme celle de ce soir, des témoignages, aussi bien en Finistère, en Côte d'Armor qu'en Ille-et-Vilaine, de gens, de spectateurs qui étaient eux-mêmes descendants de Terre-Neuve, mais qui étaient qui se pensaient descendants de Terre-Neuve, et qui, en fouillant plus leurs archives personnelles, familiales, etc., ben, ont découvert que ça pouvait aussi être autre chose que Terre-Neuve. C'était pas forcément une ascendance de que maritime, en tout cas.
Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Oui,
je voulais vous demander. demander, parce que sur le film, là, les petits graviers, quelles recherches vous avez fait pour les aider, les petits graviers?
J'ai pas tout à fait bien. Quelles recherches on a faites, c'est ça, ouais, la question?
J'ai enquête sur ces gens-là, sur les petits graviers de Saint-Pierre et Miquelon.
C'est un peu ce qu'on montre dans le film. On a fait des recherches qui commencent d'abord par des listes de marins au service historique de la défense. C'est la base de le service historique de la défense qui référencie tous les matelots, tous les marins. C'est là que s'adressent plein de gens qui font des recherches généalogiques pour leur famille. Donc c'est la base. Après, c'est plein de lectures. On arrive, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive à trouver des petits extraits qui concernent les petits graviers. Le témoignage dont je parlais tout à l'heure, le descendant de Petit Gravier et de capitaine de goélette, Bernard Le Gonidec, c'est son bouquin parle de la grande pêche à Paimpol, mais il parle des petits graviers pendant 2-3 paragraphes. En fait, dans ça. Donc il faut aller chercher tout ça, il faut lire plein de choses, aller chercher, ça fait partie des recherches, des lectures, de tout ce qui est écrit sur, aussi bien sur Saint-Pierre et Miquelon que sur la grande pêche. Et voilà, de fil en aiguille, on arrive à tricoter l'histoire.
Moi, j'ai été sidéré d'apprendre que ça pouvait concerner près de 50 000 personnes, enfin enfants. Donc 50 000 enfants, ça fait combien de familles ici qui sont concernés finalement par des ancêtres qui ont vécu ça. Et je voulais vous demander si vous avez des retours aussi, ou des demandes de familles du Pays Basque ou de Normandie qui commencent à se poser des questions aussi sur cette histoire-là qui les concerne aussi.
Alors on n'a pas eu de retour pour l'instant de Normandie, mais pourtant ça a été diffusé exactement en même temps, le même jour que sur France 3 Bretagne. On en a eu du Pays Basque, on avait même aussi poursuivi, pour répondre à votre question aussi monsieur, à des recherches au Pays Basque qu'on n'a pas pu diffuser on avait trop de matière finalement, donc on a été obligé de le supprimer du montage, mais c'est là-bas au Pays Basque qu'on a trouvé les premiers témoignages les plus anciens, en tout cas qui remontent à 1826-1829, des écrits de et là aussi il fallait aller chercher des petits graviers dans l'arrière Pays Basque, c'était pas dans les ports qu'on recrutait, tout ça pour dire que oui, il y a des retours qu'on a eus en enquêtant aussi là-bas, et on en a eu d'autres depuis, et l'histoire continue. Tu parlais tout à l'heure du Neoliner. On a emmené à bord du Neoliner des courriers de familles basques qui racontent l'histoire de familles basques qui se sont installées à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ça raconte leur installation il y a 200 ans. Donc on a emmené ça avec le cargo à voile, on l'a déposé à l'Oriane, que vous avez vu des archives de l'archipel, et voilà, donc là, ça parle pas spécifiquement de Petit Gravier, mais ça parle de l'histoire de l'archipel, du Pays Basque, etc. Donc l'histoire continue, quoi.
Oui, votre documentaire est tout à fait passionnant, merci beaucoup. Moi, je m'interrogeais par rapport à la législation du travail des enfants en France au XIXe siècle, puisque votre enquête commence en 1816, à l'époque où les enfants peuvent travailler. Il me semble que milieu XIXe siècle, Victor Hugo a beaucoup fait pour dénoncer le travail des enfants. Enfin, on pense au poème Mélancolia, où il parle des filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, etc., qui vont à l'usine. Donc je voulais savoir, d'une part, est-ce que vous avez réussi à savoir combien les parents étaient payés pour envoyer leurs enfants comme petits graviers? Et puis, est-ce que tout au long du XIXe siècle, avec justement cette législation sur le travail des enfants qui a un peu évolué, est-ce qu'il y a eu une évolution, c'est-à-dire est-ce qu'ils partaient moins jeunes ou pas?
Oui, en fait, donc il y a deux questions. En ce qui concerne le salaire, c'était un salaire extrêmement faible et dont la plus grande partie était versée sous forme d'avance. Et l'avance était gardée par les familles. Hein. Et donc le reliquat était donné au gravier à la fin de la campagne. Mais comme tout était comptabilisé, par exemple s'il avait besoin d'un vêtement, etc. Bon, mais là, c'est un peu de nourriture et même la consommation d'alcool, qui était incroyable. Je veux dire, tout était comptabilisé et certains armateurs allaient, pas tous, hein, mais certains allaient jusqu'à compter la traversée de l'Atlantique dans ce que le gravier devait. Donc, à la fin, ils n'avaient plus rien. Et les armateurs, dans leur immense bonté, passaient l'éponge, etc. Bon, donc, en réalité, l'argent restait dans les familles à la signature. Et votre autre question, c'était... le droit des enfants. Eh bien, en France, le droit des enfants... Alors, je l'ai étudié un tout petit peu, mais surtout aux États-Unis, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai une sorte de tropisme américain. Donc, mais en France, ce qui a beaucoup modifié les choses, ce sont les lois sur la scolarité obligatoire. Donc, qui est d'abord passé à 13 ans, ensuite à beaucoup plus tard à 16 ans, etc. Donc là, les parents, si ils désobéissaient à ces lois, je veux dire qu'ils étaient pénalisés. Hein, je veux dire donc. Et en ce qui concerne les droits des graviers eux-mêmes, pendant leur temps à Saint-Pierre, évidemment qu'il y avait un entourage juridique, mais il n'était pas respecté. Je veux dire, il était purement théorique. Je veux dire que. À la limite, et l'entourage juridique était surtout une promesse de devenir marin, parce qu'ils étaient inscrits maritimes provisoires. Ça veut dire que ensuite, en devenant plus âgés, ils devenaient mousses, novices, etc., et marins, quoi. C'est-à-dire que tout était comptabilisé, même à cette époque-là, rétroactivement, les jours d'embarquement. Par exemple, mon grand-père a eu 15 jours d'embarquement, le temps de passer de Saint-Malo à Saint-Pierre, qui ont été quand même conservés sur son livret de marin, quoi, et qui comptait pour une demi-retraite. Hein. Donc, mais si on prend le cas des États-Unis, où le travail des enfants était partout, et pas seulement, évidemment, en bord de mer. Et donc, c'est des enfants dans les champs de coton, il y a des fillettes de 4 ans. Hein. Donc, irlandaises ou afro-américaines. Hein. Donc, qui d'ailleurs n'étaient pas ensemble, puisqu'il y avait ségrégation. Eh bien, l'abolition du travail des enfants a eu lieu 50 ans après l'abolition de l'esclavage. Et en fait, on peut dire que dans certains cas, par exemple, dans le cas des champs de canne à sucre aux Antilles, le travail des enfants a pris le relais du travail des esclaves, puisque c'était plus possible d'employer des esclaves.
Les externalités négatives de l'abolition de l'esclavage qui a rejailli sur les enfants. Quoi. Ouais. Allez-y. On va enchaîner sur les questions. N'hésitez pas à lever la main.
Une question très technique, pratique. La morue, donc, elle est séchée, mais elle est séchée au soleil. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de soleil à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je m'interrogeais d'une manière tout à fait pratique. Et je me demandais s'il la salait également. Parce que vous n'avez pas parlé du sel.
Oui. Non, elle est d'abord salée à bord. Pardon, c'est un peu fort. Elle est d'abord salée à bord quand elle est pêchée sur les bancs de Terre-Neuve. Elle est salée pour être conservée. La plupart du temps, elle était salée pour être ramenée en métropole. Mais à partir du moment où il y a eu ces installations à Saint-Pierre-et-Miquelon, la pêche de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois salée était débarquée à Saint-Pierre pour être séchée. Donc avant d'être séchée, elle devait être dessalée. Donc c'est pour ça qu'on voit les gamins dans les pieds dans l'eau, etc., qui dessalent en fait là, parce qu'il y avait un excès de sel avant qu'elle soit séchée. Après, elle devait être séchée avec une dizaine de soleils. C'était toute la difficulté, tout le côté ardu de ce boulot-là, c'est que le soleil, comme vous l'avez remarqué, il n'est pas là tous les jours, il n'est pas là tout le temps, il est là un petit peu par jour, mais pas tout le temps, et ça peut être suivi de brouillard, de brume, de pluie. Donc, il fallait se dépêcher. Une fois qu'on l'avait mise au soleil, il fallait se dépêcher pour la ramasser si la pluie arrivait. Et c'était ça qui était compliqué, c'était ça qui fait qu'ils n'arrêtaient pas d'étaler la morue, de la ramasser, d'étaler la morue, de la ramasser. Et puis après, je crois, de la ressaler, mais beaucoup moins, pour la ramener en métropole.
Oui, le poisson séché pouvait se conserver, un poisson vraiment bien séché, pouvait se conserver jusqu'à 2 ans. Alors, il y avait du poisson de moins bonne qualité qui avait pris un peu l'humidité et qui développait des taches rouges toxiques qu'on appelait le rouge de la morue. Et comme rien n'était perdu, ce poisson-là était expédié aux Antilles, et où il servait d'ailleurs à nourrir les gens dans les plantations. Et donc c'était en fond des, des esclaves, entre guillemets, qui nourrissaient d'autres esclaves, en fait. Et c'est, oui, donc, et alors il faut aussi savoir que quand il faisait mauvais, il pleuvait, il y avait du bon, on ne pouvait pas étaler la morue elle devait prendre l'humidité. Eh bien, les graviers, ils n'étaient pas en vacances pour autant. Ils étaient utilisés à autre chose, qui n'avait rien à voir avec la pêche. On les faisait transbahuter le charbon, faire des déménagements, bêcher les jardins. Enfin, bon, je veux dire, rien n'était perdu, à tel point que beaucoup d'entre eux travaillaient 7 jours sur 7. Et dans les cas extrêmes, il y a eu des cas où ils n'ont eu qu'un jour de congé, qui était le 14 juillet.
Alors pour l'anecdote la plus rigolote, la morue de mauvaise qualité qui partait vers les Antilles, c'est ça qui a donné les acras de morue. On croit que c'est un plat antillais, mais non, c'est la morue, vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne pêche pas de morue aux Antilles. Oui. Donc voilà. Merci Saint-Pierre, merci Miquelon.
Vous y penserez pour vos prochains apéros. On peut prendre encore deux questions, si vous avez.
Oui, bonjour, bonsoir. Je m'interrogeais sur le fait que les enfants, est-ce qu'ils venaient, ils rentraient, s'ils pouvaient entrer et pouvaient repartir. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne venaient qu'une fois, qu'ils y allaient qu'une fois. Mais dans ces grandes, grandes familles, comment est-ce que ça se passait entre frères et sœurs à qui on disait, bah, toi, cette année, c'est toi qui y vas ? Comment ça se passait au sein de ces grandes familles ?
On ne sait pas. ce qu'on sait, c'est que quand même, c'était très rare qu'ils reviennent pour une deuxième campagne, même si dans l'engagement, en fait, là c'est ce qu'on sait, on faisait miroiter une évolution au bout de deux campagnes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait, comme Alexis parlait du statut d'inscrit maritime provisoire, les armateurs qui faisaient signer les engagements promettaient une inscription maritime tout court, qui permettait d'évoluer dans le statut, de devenir à ce moment-là peut-être mousse à bord des bateaux Terre Nova, ce qui était un sort enviable, même si on sait que le sort des mousses n'était quand même pas terrible, mais voilà, c'était quand même un espoir de pouvoir devenir mousse, ou en tant qu'inscrit maritime, de pouvoir rentrer dans la marine nationale, dans la royale, ce qui était là du coup un peu la panacée, mais bon. On n'a pas fait d'études pour savoir si c'était vraiment abouti. Quelle était l'autre partie de votre question ?
Non, je ne pense pas. Enfin, justement, parce qu'ils se taisaient beaucoup au sein des familles. Et il y a cette expression en breton qui est « avec la honte ». On ne parle pas parce que c'est avec la honte. Enfin, on a honte de parler de sa souffrance, de ses malheurs. Et donc, il ne parlait pas. Bon, en général, il y a le cas d'un jeune de Paimpol qui, plutôt que d'être gravier, s'est jeté dans le port quand même, hein, parce que lui, il était au courant. Et donc, et ceux qui restaient, parce qu'il en restait quelques-uns qui se sont installés, on en parle dans le film, mais il y en avait d'autres qui restaient pour une deuxième saison. Donc, on appelait ça les hivernants. Mais ce n'était pas pour être gravier à nouveau, c'était pour être avant Doris, c'est-à-dire faire la petite pêche, quoi. Et donc, là encore, gravir un échelon, hein, dans l'ascenseur social, si on peut dire, mais vers la pêche, quoi. Là, ils embarquaient, là, du coup. Et donc, ils réalisaient une forme de rêve, malgré tout. Et c'est pour ça que certains pouvaient rester l'hiver. Et aussi parce qu'ils n'avaient peut-être pas l'argent pour rentrer, et aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de revoir leur famille ou le sort qui n'était pas tellement plus enviable, hein, des campagnes, quoi. Hein. Donc.
Est-ce qu'on prend une dernière question éventuellement, sachant qu'on peut poursuivre après de manière informelle pour celles et ceux qui restent, mais...
Alors, d'abord, merci. Effectivement, pour ce documentaire, comme vous l'avez dit, le montage superbe, les images superbes, mais le dessin apporte quelque chose de très émouvant. Vraiment, ça permet d'incarner. On a besoin de ça parfois pour se mettre à la place des gens. Donc vraiment, vraiment bravo. Et puis, j'avais une question qui était peut-être plus personnelle par rapport à votre histoire familiale. Du coup, j'ai compris que votre grand-père est revenu après. Est-ce qu'il y avait un lien entre le fait que vous ayez vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon et le fait que lui soit allé comme petit gravier
C'est une excellente question. En fait, indirectement, oui, je pense. mais pas directement, parce que je n'ai appris qu'il était allé à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'au moment où moi-même j'y allais. C'est ma tante, donc la jeune sœur de mon père, donc la fille de mon grand-père, qui me l'a dit. Et c'était au moment où je partais. Là encore, la parole s'est déliée à ce moment-là. Enfin, d'une manière très fragmentaire, évidemment, puisque je n'en savais pas plus. Mais par contre, quand je dis indirectement oui, c'est parce que je pense que c'était le même appel de l'aventure, en fait. Il y avait quelque chose. On dit quelquefois qu'il y a des traces génétiques comme ça qui transportent l'expérience d'une génération vers les autres générations. C'est pas du tout quelque chose d'un peu évaporé, hein, de dire ça. Il y a eu des études, disons qu'en particulier dans les cas de traumatisme, etc., il y a des traces génétiques. Là, bon, c'est l'appel de l'aventure. Et je pense que c'était pas seulement mon grand-père, ou c'est pas un cas particulier. La plupart des jeunes qui voulaient embarquer, qui se faisaient piéger comme gravier, mais qui voulaient aussi embarquer pour être pêcheurs, c'était ça. Alors certes, ils parlaient beaucoup breton, mais on sait que il y avait aussi des lecteurs. Ils lisaient Jules Verne, ils lisaient Jack London, etc. Enfin, je veux dire que, et puis l'appel de l'Amérique du Nord. Enfin, il y a plein de choses dans l'âme d'un enfant comme ça qui peut lui donner envie de quitter son cadre familial, sans savoir évidemment où il va atterrir, quoi.
Ouais.